Le texte que nous lirons ce matin et qui portera notre méditation aujourd'hui nous vient de la pause spirituelle d'il y a une dizaine de jours. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, nous lirons donc les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où Jésus se tenait et y firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique « Enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu ? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'ils tenaient. Il leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique « Je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi ». L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Le premier mot de l'évangile de Marc, c'est le mot « commencement ». Chapitre 1, verset 1, premier mot. Commencement de la bonne nouvelle, l'évangile, de Jésus, Christ, Fils de Dieu. La bonne nouvelle, ce n'est pas l'évangile de Marc, ni l'œuvre d'un des autres évangélistes. La bonne nouvelle, l'évangile, ce n'est pas le texte. L'évangile, ce n'est pas non plus le récit de quelques années de la vie de Jésus de Nazareth. Mais ce que Marc instaure en tête de son récit, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle, cela a à voir avec un commencement. Et donc, il importe de garder bien présent à l'esprit, au fil de la lecture, que commencement est l'un des mots-clés pour cette lecture, d'un bout à l'autre du récit, du premier au dernier chapitre, et au milieu également, et donc au chapitre 2. Marc invite ses lecteurs à lire en cherchant, en étant attentif au commencement. Parce que là où il y a commencement, il y a l'Évangile. Là où survient la bonne nouvelle, advient un commencement. Marc est l'évangéliste du commencement, des commencements. Et s'il met particulièrement de manière évidente l'accent sur cette dimension de l'évangile, de susciter un commencement, les trois autres évangélistes ne l'ignorent pas du tout. Et ce qui commence, c'est une nouvelle histoire de vie, une nouvelle vie, une vie nouvelle, à la fois dans le cours du récit, et aussi par la lecture. Chaque lecture qui peut devenir la bonne occasion pour discerner un commencement dans le texte, dans la vie, dans le monde. Le surgissement de quelque chose de nouveau, en rupture avec ce qui était auparavant. Que se passe-t-il ? Comment cela se passe-t-il ? Quel est ce commencement ? Qu'est-ce qui le fait advenir ? L'excellent metteur en scène qu'est Marc commence par installer une situation bloquée. Une foule dans une maison, peut-être même autour de la maison, puisqu'il n'y a plus de place même devant la porte. Une foule dont la densité accentue l'effet de, enfin, la fermeture constituée par les murs de la maison. L'espace est rempli autour de Jésus. Et finalement, personne ne bouge. Personne ne bouge quand la foule est si compacte. Personne n'entre, personne ne passe. Ceux qui sont dans la maison s'estiment certainement heureux d'être entrés, mais ce que montre Marc, c'est un bloc. Certes, ils sont tous rassemblés pour écouter Jésus, mais le résultat de ce rassemblement et de cette écoute, c'est une masse agglutinée et figée. Et comme Marc n'écrit rien de ce que dit Jésus, c'est que d'une certaine manière, il ne se passe rien. Jésus parle la parole, curieuse expression de Marc, un peu obscure et qui ne produit pas beaucoup d'effet, de mouvement parmi la foule. Le rassemblement autour de lui est à la fois immobile et hermétique. Une forme de communauté soudée dans l'écoute, mais étanche, imperméable, entourant Jésus, mais refermée sur lui et sur elle-même. Jusqu'à ce que le toit soit troué. Et ce n'est pas le vent de l'esprit qui écarte la légère structure des toits des maisons. Ce n'est pas une intervention divine qui ménage une brèche. Ce sont quatre hommes qui font un trou dans le toit pour faire passer un cinquième par l'ouverture ainsi dégagée. Ce qui commence, commence par ce que font quatre hommes qui tiennent absolument à rapprocher de Jésus un cinquième homme qui est paralysé. Rien ne dit qu'ils espèrent une guérison. Mais ils veulent réunir le paralysé et Jésus. Ils veulent que l'homme paralysé ait une place auprès de Jésus. Et puisqu'ils ne peuvent faire traverser la foule à l'homme couché, ils lui font traverser le toit. Au commencement, il y a la sollicitude, l'attention, le souci, la solidarité et la persévérance qui ne se résignent pas, même devant l'obstacle, l'obstacle d'un mur de dos tourné. Prendre du temps pour prendre soin d'un autre, c'est faire brèche dans les murs d'indifférence. C'est trouver la manière de contourner la fatalité, aussi massive soit-elle, comme une foule soudée. Quatre hommes emportant un cinquième, ne se laissant pas arrêter par la fermeture des voies communes et ordinaires, démontent le toit et ouvre un passage inattendu, peut-être un peu scandaleux, moins du point de vue du propriétaire de la maison. Un passage pour mettre l'homme paralysé au bénéfice de la parole de Jésus, qui est une parole d'autorité, car c'est bien ce que Jésus a déjà manifesté à Capharnaüm au chapitre précédent, un enseignement plein d'autorité, d'une autorité qui libère et qui guérit. Les quatre hommes veulent mettre le cinquième en lien avec celui qui est présence vivifiante sans mesure et sans contrainte. Sollicitude, persévérance et imagination audacieuse, le trou dans le toit, il fallait y penser. Non que ce soit absolument impossible, mais c'est le seul passage quand il n'y a pas de passage, justement, quand la porte est bloquée. Et cette sollicitude, cette persévérance, cette imagination, le regard de Jésus les rassemble en un seul mot, c'est de la foi. Cette sollicitude, cette persévérance, cette imagination, cela suffit pour voir et reconnaître de la foi. Et il n'y a rien de moins religieux que cette foi. Elle n'a pas besoin de contenu doctrinal, elle n'a pas besoin de rituel, elle ne passe pas par des codes, elle s'affranchit même des bonnes manières. Cette foi se manifeste à travers une action qui vise à relier une vie affaiblie à l'énergie de l'être. Le paralytique est un homme affaibli, dont les membres ne sont pas reliés les uns aux autres. Il est un homme, on pourrait dire, défait. défait comme une couture qui a cédé, défait comme une armée qui a été vaincue, ou défait comme un vitrail qui a perdu son armature de plomb. C'est un homme dont l'énergie vitale a trop diminué pour qu'il soit autonome. Il dépend du bon vouloir d'autrui. À lui tout seul, il n'a pas d'avenir, il n'a pas de lendemain, il n'a pas d'horizon. Les récits de guérison par Jésus dans les évangiles ne relèvent pas du fait divers apportant un événement extraordinaire. En quoi la guérison d'un paralytique il y a 2000 ans pourrait-elle nous concerner ? En quoi pourrait-elle ouvrir un commencement pour aujourd'hui ? Des guérisons, il y en avait beaucoup, et beaucoup de guérisseurs, et il y en a encore. Ce n'est pas l'irrationnel, l'inexplicable que les évangiles nous donnent à lire, à voir, à entendre. C'est l'évangile qui est profondément relationnel. C'est la bonne nouvelle pour nous et pour aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle ne commence pas dans la mise en œuvre d'une puissance divine devant laquelle il n'y aurait qu'à s'incliner. D'ailleurs, Marc est très clair. Jésus ne fait rien dans ce récit, rien du tout. Il voit la foi de 4 hommes qui ont fait un trou dans le toit pour approcher de lui un 5e homme paralysé. Et cette foi se tient dans le refus de laisser l'homme paralysé dans sa défaite. Cette foi se tient dans la volonté de le placer sous un autre horizon que celui de son grabat. Cette foi, la foi des 4 hommes, n'est même pas pour leur bénéfice à eux, mais au bénéfice d'un 5e. Autrement dit, ce don, cette gratuité, allez, cette grâce faite à autrui, c'est de la foi. La liberté dont les 4 hommes font preuve envers eux-mêmes et leurs propres intérêts, comme envers ce mur de dos qui les empêche d'entrer par la porte, la responsabilité qu'ils prennent dans leur sollicitude envers l'homme paralysé, l'imagination qui les conduit à percer le toit, c'est de la foi. La conviction que la défaite d'un homme ne peut représenter le sens ultime de son existence. La conviction qu'il y a un horizon pour ceux qui sont à terre, que personne ne peut être privé d'être et d'humanité, ni être privé de ce qui vivifie leur être et leur humanité, c'est de la foi. La foi que cet homme, que l'homme, est l'espérance de Dieu, pour le dire avec les mots de Charles Wagner. Et c'est voyant cela, constatant cela, que Jésus se joint à ce mouvement de sollicitude pour l'homme paralysé. Il affirme qu'il y a là un commencement qui survient pour lui. « Enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors la paralysie n'est certainement pas la conséquence des péchés de l'homme. Et les 4 évangélistes, chacun à leur manière, contestent vigoureusement toute notion de rétribution. Et puis de toute façon, une fois rentré chez lui sur ses 2 pieds, l'homme commettra forcément d'autres péchés. Comment pourrait-il faire autrement ? Mais ce que dit Jésus, c'est que la sollicitude des 4 hommes a ouvert pour un 5e un avenir et qu'il ait libéré ce 5e homme du poids de son passé, du poids de ses défaites, de son extrême dépendance. « Enfant, lui dit Jésus, ta vie commence à nouveau. » Enfant, car le commencement, c'est le temps de l'enfance, toujours comme l'enfance est le temps des commencements. Que d'espérance dans ce mot d'enfant, et que de confiance pour grandir, pour apprendre, pour comprendre et pour vivre. Et si les scribes sont offusqués, c'est bien parce que pour eux et leurs semblables, de tout temps et de tout lieu, il ne peut pas y avoir d'avenir nouveau. Il ne peut pas y avoir de commencement d'autre chose que ce qui est, car tout doit être encadré, contenu, enfermé dans le savoir dont ils sont les experts et les gardiens. Il ne peut pas y avoir de commencement quand il s'agit de maintenir ce qui est. Il ne peut pas y avoir d'avenir quand il s'agit de préserver ce qui est transmis. Il ne peut pas y avoir de nouveau quand il s'agit de reproduire toujours le même modèle. Pour les scribes, le blasphème, c'est ce trou dans leur monde bien clos bien clos sur ses textes, ses dogmes, ses rites, ses définitions et ses formules. Ils sont bien assis, oui, dans leur tradition, dans leur pouvoir, ces scribes qui se scandalisent d'une parole libre, qui passe par-dessus leur contrôle, qui se passe de leur contrôle et s'affranchit de leur influence. Pour eux, il aurait mieux valu que le paralytique reste paralysé et les quatre hommes chez eux. Mais ce que Jésus exprime, c'est ce souffle vivifiant du pardon qui ranime en l'existence ce à quoi elle est appelée et ce qu'il appelle un horizon d'amour et de confiance. Hier, à la journée biblique du christianisme social, le professeur François Vouga rappelait que c'est ainsi que Marc donne à comprendre la transcendance dont Jésus-Christ est présence, un horizon d'amour et de confiance, devant lequel se placer ou devant lequel placer un autre. Cet horizon était déjà en perspective dans la sollicitude des quatre hommes, envers le cinquième, cette sollicitude qui l'a emporté sur ce qui défaisait la vie du paralysé. Et Jésus le souligne deux fois, puisque répondant au bougonnement des scribes, il ajoute au pardon la guérison. En vérité, il ne l'ajoute pas. Le pardon, comme renouvellement du don de la vie, c'est l'équivalent d'une guérison, et même d'une résurrection. Lève-toi. Se lever, vous le savez, c'est l'un des deux verbes pour dire la résurrection, avec être réveillé. Jésus parle la parole, parole créatrice et recréatrice, dans un souffle de vie vivante provoqué par un trou dans le toit. Jésus a accueilli le mouvement des quatre hommes et il le porte par sa parole à son accomplissement, au-delà de ce que les hommes pensaient faire. Mais rien n'aurait été possible s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas été mobilisé par leur sollicitude, leur persévérance, leur imagination. Et cet accomplissement, c'est celui du commencement pour le cinquième homme. Et nous pouvons voir, regarder autour de nous et voir, regarder autour de nous et discerner des commencements et ce qui les a rendus possibles, du soin donné, du temps passé, de la bonté incarnée, de l'imagination déployée dans la confiance qu'un être humain n'est jamais réductible à un état ni à une circonstance. Et nous pouvons nous en réjouir, comme nous pouvons rendre grâce pour ces fois où, dans nos défaites, dans nos faiblesses, nous avons été portés par d'autres. Ces fois où, reliés grâce à eux, à la dynamique créatrice et vivifiante, nous avons été relevés sur l'horizon de la confiance inconditionnelle. Commencement de la bonne nouvelle, commencement de vie. Amen.